France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
40 ans tout juste après sa mort, l'ombre de Mao sur la Chine plane encore. Le portrait du grand timonier trône toujours sur la place Tiananmen à Pékin et le mausolée, non loin, rappelle aux Chinois l'héritage de celui qui est à l'origine du pays tel qu'on le connaît aujourd'hui, au moins dans sa structure politique et son fonctionnement institutionnel. Mao qui, pourtant, titre l'Obs cette semaine, reste le plus grand criminel de l'histoire. Difficile encore aujourd'hui de chiffrer au million près le bilan humain des catastrophes engendrées et des tueries, des purges organisées par Mao. Mais dans l'effroyable, ce fils de paysan né en 1893, mort en 76, est effectivement au-delà de Staline ou d'Hitler niveau comptabilité. Pourtant oui, l'esprit de Mao est encore là, bien présent dans la vie quotidienne des Chinois, comme au sommet de l'État. Pour en parler ce matin, Jean-Philippe Béja est avec nous, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de la vie politique chinoise, ainsi que Pierre Aski, journaliste à l'Obs, co-auteur du dossier à lire cette semaine. Alors avant d'essayer de comprendre ce que représente Mao aujourd'hui pour les Chinois et comment son souvenir est utilisé par le pouvoir, un peu d'histoire parce que on commémore aussi en cette année 2016 les 50 ans du début de la révolution culturelle qui est un des plus grands drames de l'histoire contemporaine. Jean-Philippe Béja, un épisode qui dure plusieurs années, hein, qui à lui seul peut permettre de comprendre la méthode Mao.
Disons que c'est le paroxysme de la méthode de Mao Zedong. La plus grande catastrophe, c'est évidemment le grand bond en avant et la famine qui l'a suivi avec environ 40 millions de morts. Mais la révolution culturelle, c'est un peu la volonté, la manière de ce qu'il avait de gouverner le pays. C'était son idéal pour le pays. Alors la révolution culturelle, c'est quelque chose qui commence comme une volonté de reprendre le pouvoir, parce que Mao a été relativement écarté au lendemain de la catastrophe du grand bond en avant, et c'est coéquipiers, Liu Shaoqi et Deng Xiaoping, ont permis à l'économie chinoise de revenir plus ou moins, de redevenir normale. Ils ont résolu la question de la famine et l'agriculture marche mieux.
Donc ils se sont écartés,
Mao. Ils se sont écartés de la ligne de Mao. Et pour Mao, l'important c'est de revenir et que la Chine ne change pas de couleur à la fin de sa vie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel à la jeunesse, qui est pratiquement la seule catégorie sociale qui n'a pas encore vraiment souffert du pouvoir du Parti communiste, et il va les appeler à se révolter contre un pouvoir qui est extrait. C'est une chape de plomb, le pouvoir de Liu Shaoqi et de Deng Xiaoping. C'est un pouvoir qui est très stalinien. Alors il va leur dire, on a raison de se révolter. À partir de là, on va créer les gardes rouges. Dans un premier temps, pendant un tout petit moment, il y aura un certain nombre de gens, de victimes du régime, qui vont profiter de cet appel à la révolte pour essayer justement d'obtenir leur réhabilitation. Mais ça ne va pas durer longtemps du tout. Et très rapidement, les gardes rouges seront réservés aux gens de bonne origine sociale et on va se déchaîner contre les intellectuels, les bourgeois, les gens de mauvaise origine sociale.
Il s'agit de détruire tout ce qui est antérieur à 1949 dans l'histoire du pays.
Alors,
dans son
je dirais même ce qui est antérieur à 1966, parce qu'il y a une espèce de critique du révisionnisme qui est quelque chose. Donc le révisionnisme c'était très mal et le grand bond en avant c'était très bien. Hein, c'est quand même très net et on reprend un peu ces idées. Alors, il n'ira pas jusqu'à les mettre en œuvre dans les campagnes, mais l'idée va être de remplacer les dirigeants au pouvoir par une nouvelle génération qui serait entièrement dévouée à Mao.
Et l'idée, c'est de supprimer tout ce qu'il peut y avoir entre Mao et le peuple.
Alors bien sûr, c'est-à-dire que on doit se révolter contre les institutions et puis créer de nouvelles institutions avec des gens qui sont entièrement fanatisés au profit de Mao. Malheureusement, pour Mao, ça ne va pas marcher du tout, puisqu'il sera contraint d'envoyer les jeunes gardes rouges à la campagne parce qu'ils commençaient à réfléchir à la nature du système.
Ouais, dont Xi Jinping, qui est le dirigeant actuel, on va y revenir, Jean-Philippe Béja, mais qui est allé effectivement à la campagne.
Qui n'avait pas été garde rouge, mais qui a été envoyé à la campagne et qui y est resté une dizaine d'années.
On le voit, Pierre Aski, la méthode Mao est quand même bien différente de ce qu'on avait connu avant. Mao ne se compare que difficilement à Hitler et à Staline.
Oui, je crois que c'est des phénomènes tout à fait spécifiques dans chaque cas. Et il y a une dimension d'inhumanité chez Mao qui est spécifique, c'est-à-dire qu'il résonne en nombre, il résonne en données globales, il résonne avec un objectif qui est celui de sa reconquête du pouvoir. Et les dégâts qu'il peut y avoir sur la route sont peu importants. Mmh. C'est un écrivain chinois qui a été purgé, envoyé en camp, etc. pendant 25 ans, qui m'avait dit « la révolution a besoin de petits cailloux pour aplanir la route. Le problème, c'est quand on est un de ces petits cailloux. Et c'est vraiment le bilan humain chiffré dont on parlait tout à l'heure, qui est en 45, 50 millions de morts au total, total dans cette histoire. Ce sont ces 50 millions de petits cailloux qui ont été instrumentalisés par un homme politique.
Avec des scènes atroces dans l'Obs à lire cette semaine. L'épisode du cannibalisme révolutionnaire.
Oui, alors il y a plusieurs références à ça dans l'histoire de la Chine maoïste, que ce soit pendant le grand bond en avant, pendant la famine du grand bond en avant, où là par nécessité des gens se sont mis à pratiquer le cannibalisme, mais aussi et c'est là l'épisode peut-être le plus troublant, par idéologie, pendant la révolution culturelle. Alors ça a été combattu par le gouvernement central, mais dans une province du sud de la Chine, il y a eu des cas où on a, pour faire expier d'une certaine manière les gens qui ont de mauvaises origines de classe, comme on disait à l'époque, on a pratiqué l'anthropophagie, ce qui est, c'est une des aberrations totales de cette époque. Il y a des témoignages extrêmement précis sur la question.
Jean-Philippe Bégin, on voit que Mao cultive à la fois la stature de l'empereur après la révolution culturelle et celle du rebelle révolutionnaire.
Oui, absolument, c'est ça, c'est cette ambiguïté qui est très différente, par exemple, d'un Staline, justement. C'est-à-dire que Mao n'hésite pas à mobiliser les masses pour se débarrasser de ses ennemis, quitte à après renvoyer les masses soit dans les prisons, soit dans les campagnes. Il l'a fait en 1942, il l'a fait en 1957 au moment des sans-fleurs, et il l'a refait pendant la révolution culturelle. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la révolution culturelle a eu aussi des conséquences qui n'étaient pas du tout prévues par ceux qui l'ont déclenché, notamment une petite partie des jeunes qui ont été envoyés à la campagne ont commencé à réfléchir sur la nature du système, et tout ce qui est le mouvement démocratique qu'on va voir apparaître en Chine au lendemain de la mort de Mao en 78, 79, puis en 89 et jusqu'à Liu Xiaobo et son prix Nobel de la paix, ce sont des gens qui ont été envoyés à la campagne et qui là ont commencé à lire les livres interdits, à réfléchir entre eux sur le système et à devenir des défenseurs de la démocratie. C'est malheureusement pas le cas de Xi Jinping, parce qu'il y a une autre partie des gens, c'est ceux qui ont cherché à tout prix à s'intégrer dans le régime.
Ouais, il est revenu, il a redemandé une dizaine de fois
à être entré au parti. Ouais. Et en plus, il a été envoyé dès 75 à l'université parce que c'était quelqu'un qui pensait bien, malgré le fait qu'il avait un père qui avait été étiqueté contre-révolutionnaire dès 1962 par Mao.
Purgé. Avec ce bilan catastrophique, quand même, la figure de Mao, ça il va falloir l'expliquer maintenant, reste très présente en Chine. C'est quoi ? C'est encore le père de la nation, Pierre Inski ?
Oui, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de l'ère maoïste, donc que ce soit d'abord avec la mort du grand timonier lui-même, puis la fin de la bande des quatre, c'est-à-dire le clan le plus avec radical avec Jiang Qin, sa veuve, etc. Il y a eu une décision du parti sous l'égide de Deng Xiaoping qui a été de ne pas procéder à la démaoïsation comme il y avait eu la déstalinisation.
Oui, c'est ce que vous écrivez dans l'Obs.
Union soviétique,
on est post-Mao, mais on n'est pas post-maoïste.
Exactement. En fait, il n'y a pas eu le rapport Khrouchtchev, d'ailleurs, a été vécu par Mao comme une trahison absolue du communisme et de l'idéal. Et donc, Deng Xiaoping a trouvé cette formule extraordinaire qui est de dire le bilan de Mao, c'est 70% positif, 30% négatif.
Et ça tient encore aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'on est presque 40 ans plus tard et ça tient encore. Et ça permet de mettre sous le tapis, en gros, tous ceux dont on a parlé.
Ça permet de reconnaître un peu les erreurs,
et de garder une légitimité, une continuité de la légitimité historique. Mao, c'est celui qui a rétabli la fierté nationale, la souveraineté, qui a donné la bombe atomique, par exemple. Ouais. C'est un moment extrêmement important dans cette affirmation du retour de la puissance chinoise. Et donc, on le garde comme symbole de cette continuité.
Et c'est ce qui fonde la légitimité du parti, encore aujourd'hui, du Parti communiste, Jean-Philippe Bégin.
Mao, c'est à la fois le Lénine et le Staline de la Chine. Donc, c'était difficile de déstaliniser, parce que qu'est-ce que c'était? Je dirais aujourd'hui que on parle surtout des 70 et on parle pratiquement plus des 30.
On parle pas des 30.
Je veux dire, tout ce qui est négatif sur Mao, Xi Jinping leur a donné un nom, ça s'appelle le nihilisme historique. Et il n'est pas question de faire du nihilisme historique. On vient très récemment de fermer une revue qui s'attaquait aux erreurs du parti, qui était fondée par des vieux militants du parti, des gens qui ont 70 ans de parti derrière eux, et on n'a pas hésité à fermer cette revue. Pourquoi ? Parce que, effectivement, Xi Jinping a je pense, décidé que le meilleur moyen de réaffirmer la légitimité... Le parti, en 2012, commence à voir sa légitimité par mal érodée. Hein. Rappelons quand même les dates très importantes, 89, où l'idéal est perdu. Hein. Le massacre du 4 juin, c'est quand même la fin de la légitimité du régime, du socialisme, etc. Et puis, on reprend le développement économique, c'est le rêve chinois, et pour imposer ce rêve, pour réaliser ce rêve chinois, bah pour Xi Jinping, le meilleur moyen, c'est de lutter contre la corruption et de rétablir un pouvoir qui est très fort, un homme fort, un parti qui lui obéit. Donc, c'est un petit peu l'image de Mao, je dirais même aussi mitigée de Staline, parce que il n'est pas question, bien sûr, d'appeler les larges masses à se soulever contre les ennemis de Xi Jinping. Au contraire, on utilise la police, on utilise mais c'est quand même une espèce de nouvelle forme de culte de la personnalité. La conclusion de Xi Jinping des 70-30, c'est eh ben, allons-y pour les 70, il faut avoir une personnalité forte. Mao était le fondateur du régime. Voilà, il est merveilleux et moi, je suis son héritier.
On le voit, hein, Pierre Aski, les références à Mao sont pas uniquement subliminales, c'est pas uniquement le col Mao que revêt Xi Jinping à l'occasion.
Oui, tout à fait. En fait, le personnage de Mao, il est très utile parce que il permet d'être une sorte de présence permanente, une sorte de père tutélaire de la nation, qui est protectrice, qui est bienveillante. Et c'est un petit peu comme ça que qu'on a éduqué les jeunes Chinois aujourd'hui. Pour les jeunes Chinois, Mao, c'est le père de la nation. Il y a un rapport d'ailleurs. C'est si on fait un parallèle pour un jeune Français aujourd'hui, De Gaulle, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est cette référence avec laquelle on a peu du mal à correspondre, mais qui est en gros, on lui doit beaucoup de choses sur la grandeur du pays, sur le rétablissement de l'autorité.
Mais c'est pareil en Chine, le projet politique, lui, il est quand même radicalement différent aujourd'hui.
Mais le projet politique, le projet économique surtout, c'est-à-dire que si Mao revenait aujourd'hui, il serait horrifié par la société chinoise, qui est une société de consommation, qui est une société où l'argent est aujourd'hui la valeur cardinale, et il considérait que c'est une restauration du capitalisme, comme il disait. Or, Xi Jinping s'appuie sur les méthodes du maoïsme, donc le culte de la personnalité qui est aujourd'hui poussé à l'extrême.
Il y a des procès de Moscou là. On voit des autocritiques aussi.
Il y a eu récemment, absolument. On a rétabli les autocritiques publiques récemment. Il y a deux semaines, une avocate était à la télévision, qui avait disparu depuis un an, était à la télévision pour dire à quel point elle avait commis des erreurs et elle s'était laissée entraîner sur des voies rétrogrades, etc. Donc on est dans des méthodes qui sont d'une certaine manière la modernisation de ce qu'on voyait il y a 40-50 ans.
Jean-Philippe Bégin.
Oui, je dirais même plus encore stalinienne que maoïste, dans la mesure où on utilise la police, je veux dire la surveillance est de plus en plus importante, vis-à-vis des personnes qui risquent de mettre en cause la légitimité du pouvoir. Interdiction à toute organisation autonome d'apparaître. Lutte contre les avocats défenseurs des droits de l'homme, qui jusque-là avaient réussi à trouver plus ou moins une espèce d'espace gris, etc.
Donc, grosse inquiétude à Hong Kong.
Alors, bien sûr, à Hong Kong, une intervention pratiquement directe. Alors bon, évidemment, c'est pas des policiers en uniforme qui ont enlevé les éditeurs de Hong Kong, mais c'est quand même, tout le monde sait que ce sont des policiers chinois qui sont allés chercher un éditeur de livres qui déplaisait au pouvoir à Hong Kong pour les ramener en Chine et les accuser, leur faire un procès, et en plus, après, leur faire ces déclarations devant la télévision qui sont quand même quelque chose d'assez nouveau. Une volonté du pouvoir de montrer qu'on n'a plus peur de la dissidence. Du temps de Hu Jintao, au fond, on condamnait les dissidents, hein, on a condamné Liu Xiaobo à 11 ans de prison, mais on n'en parlait pas dans la presse. Or, aujourd'hui, avec Xi Jinping, c'est tout à fait
c'est
le contraire.
C'est décomplexé, quoi.
Oui, bien sûr. Maintenant, on dit, voilà, nous allons imposer la nouvelle légitimité et les gens vont faire une autocritique. On utilise l'autocritique, la ligne de masse, qui sont les armes magiques de Mao Zedong pour conquérir le pouvoir.
Et puis donc, il y a ce culte de la personnalité, il y a ces procès, il y a toute cette pression aussi sur la société civile, via la presse notamment, mais ça c'est pas tout à fait nouveau. Pierre Aski, ça va aller jusqu'où il veut pas se maintenir au pouvoir, Xi Jinping, il va pas pouvoir.
Alors, il y a deux éléments. Il y a d'abord le contexte économique. Il faut savoir quand même qu'il y a un ralentissement très fort de l'économie chinoise. On en a parlé tout à l'heure sur les changements du modèle. Toute cette production de masse de produits bon marché qui était exportée est aujourd'hui en déclin absolu. Et la Chine essaye de monter en gamme, essaye de créer une société qui s'appuie sur la consommation interne plus que sur l'exportation. Ça a du mal le modèle a du mal à changer. Donc on a aujourd'hui un ralentissement, un chômage qui remonte et une inquiétude générale. Et deuxièmement, il y a cette campagne anticorruption qu'a lancée Xi Jinping dès son arrivée au pouvoir, qui crée beaucoup de remous à l'intérieur du parti, parce que une génération de cadres intermédiaires se dit, mais attendez, on ne peut plus profiter aujourd'hui de notre position et de notre pouvoir. Et donc Xi Jinping veut affirmer son autorité absolue à la fois sur le parti, et là on rejoint le phénomène maoïste qui est comment garder le contrôle sur l'appareil du parti, mais aussi sur la société. Et c'est vrai que l'une des victimes aujourd'hui collatérales de cette reprise en main du parti par Xi Jinping, c'est la société civile qui est muselée, les avocats. Il y a eu la plus grande rafle d'avocats l'année dernière. Il y a eu une génération comme ça d'avocats qui est née au cours des 10 dernières années, qui s'était mise à défendre les paysans dont les terres étaient confisquées, etc., qui a été décimée. La presse a été muselée, Internet est sous contrôle, les ONG sont soumises aujourd'hui à des lois draconiennes sur le financement. Bref, on est dans
une
situation...
Xi Jinping fait du Mao pour se maintenir au pouvoir ou pour en tout cas récupérer une certaine forme de crédibilité.
Et peut-être pour prolonger son bail au pouvoir, parce que depuis Deng Xiaoping, on est réduit à deux mandats, c'est ce qu'ont fait les deux prédécesseurs de Xi Jinping. Et aujourd'hui, la rumeur de Pékin, la rumeur des milieux politiques de Pékin, c'est que Xi Jinping voudrait bien aller au-delà de ces deux mandats.
Ça peut aller jusque-là, Jean-Philippe Béja, un maintien au pouvoir d'un autocrate?
C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas, au fond, dans la charte du parti, et donc il n'y a rien
qui s'oppose.
Rien ne s'oppose à ce qui continue. Mais l'important, surtout pour lui, c'est d'avoir un parti aux ordres, d'avoir un parti qui obéit, qui est une machine efficace, et une personnalité importante, le grand dirigeant, le nouveau timonier, qui puisse le diriger. Alors, pour faire quoi? Toute la question est là. Tout le monde se demande. Alors, au début, on vous a dit, mais c'était parce que c'est le paradoxe de ces régimes autoritaires ou post-totalitaires. Il faut un homme fort pour pouvoir réaliser des réformes démocratiques. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'on a un homme fort sans réforme démocratique. Et au contraire, on a une société civile qui est complètement et pratiquement éliminée. On a les avocats qui, comme le disait Pierre Aski, sont aujourd'hui directement victimes. Donc les gens n'osent plus sortir pour se défendre. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même énormément de tensions sociales en Chine. La pollution, par exemple, la sécurité alimentaire, tout ça sont des problèmes qui sont extrêmement importants et qui sont vécus par l'ensemble des classes qui devraient appuyer Xi Jinping. Donc son problème, c'est justement de développer. Pourquoi le développement du nationalisme? Parce que justement, ce rêve chinois, c'est de faire de la Chine une grande puissance. Moi, Xi Jinping, avec un parti propre, sans corruption, je vais réussir ce pari qui est le rêve depuis 1840. La question est là. Est-ce que Xi Jinping peut réellement obtenir le soutien de la population chinoise? On voit aujourd'hui beaucoup de mécontentement, alors notamment dans les milieux intellectuels, qui se retrouvent dans une situation où ils sont pratiquement réduits au silence.
Et oui, et on voit bien, et on le sait bien, que Xi Jinping n'ira pas jusqu'à la purge, jusqu'à ce qui s'est passé dans l'ère Mao. Kieraski, il ne peut pas utiliser les mêmes armes et faire 50 millions de morts, ça c'est pas possible aujourd'hui.
Les temps ont changé par rapport à certaines pratiques. En même temps, Tiananmen, c'était il n'y a pas si longtemps, et le pouvoir chinois n'a pas hésité à envoyer l'armée. Donc, je pense qu'il ne faut rien exclure. En revanche, Jean-Philippe a prononcé un mot qui est très important. C'est le mot nationalisme, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui avec un pouvoir qui utilise aussi cette carte du nationalisme, et on le voit avec la manière dont est instrumentalisée toute la question de la mer de Chine du Sud, par exemple, contre les États-Unis. Il y a de nouveau cette idée que les États-Unis sont l'ennemi absolu, l'impérialisme qu'il faut combattre. Et donc là où vous avez des problèmes sociaux, vous avez le ciment du nationalisme qui est une des manières de régler
Et d'ailleurs, les animateurs de la société civile s'accusent eux-mêmes d'être des agents des États-Unis, de pas avoir résisté à ces valeurs occidentales qui sont au centre de la critique lancée par Deng Xiaoping.
Et là, on rejoint aussi ce qui se passe en Russie avec Poutine, c'est-à-dire cette crainte des révolutions de couleur, comme on dit, c'est-à-dire des révolutions qui passent par la société civile et qui seraient, selon Poutine ou Xi Jinping, instrumentalisées par les Américains.
On parlera, vous faites la transition, Pierre Aski, on parlera de Russie tout à l'heure après le journal de 8h et de ce qui se passe en Ukraine et en Crimée notamment. C'est un autre sujet. Merci à tous les deux d'être venus ce matin. Pierre Aski, journaliste, vous co-signez dans l'Obs
de cette semaine, ce dossier passionnant sur la vie et l'œuvre de Mao, plus grand criminel de l'histoire. C'est en kiosque dès ce matin avec France Culture. Merci aussi à Jean-Philippe Béja, directeur de recherche émérite au CNRS et aux séries de Sciences Po. Dans un instant, le journal.